Louis-Frédéric Rouquette, Le grand silence blanc. Chapitre 14. La machine à fabriquer les dollars. Jack Nichols, encore un à qui j'ai tenu les brassières. Vous avez été mère nourrice, Grégory? Vous êtes bête. La même chose pour vous. Cinq. Je continue. Et Grégory Land se cale dans ses coussins. Je sens venir l'histoire. J'en prends mon parti et je feins de m'absorber dans la coupe d'un pantalon que j'essaye de tailler dans une peau d'élan, une peau magnifique, brune et blanche, un vrai porte-bonheur. La chose est cependant délicate. Je n'ai pas de ciseaux et me sers de mon couteau de chasse. La lame, à mon gré, n'est pas suffisamment effilée. Je la passe plusieurs fois sur la pierre. Ce n'est pas du goût du postier. Garçon, vous m'agacez les dents. Je suis au regret. Si vous continuez, vous ne saurez pas la suite. Grégory, mon vieux camarade, vous n'avez pas plus envie de vous taire que moi l'envie de traverser les pieds nus le lac Labarge. Dieu me damne si vous savez la fin. Ma peau taillée, je m'installe à croupetons devant l'âtre qui crépite. Je sors mon aiguille et je couds. Un silence. Grégory gigote sur sa chaise. Sa jambe est encore en capilotade. Il geint. Je couds en mesure. Grégory, de ses doigts nerveux, joue une marche sur la table. Je l'accompagne en chantonnant. Le postier grogne. Vous n'avez pas plus de cœur que l'ours polaire. Et encore, cet animal a l'instinct de la famille. Ainsi, un jour, voilà mon Grégory lancé dans une autre aventure. Je ne puis retenir mon rire. Mais, comme il remue sa jambe malade d'une façon inquiétante, j'ai peur pour le pansement. « Voyons, old fellow, je plaisante, racontez-la votre histoire. » « Vous n'en saurez pas un traître mot. » Je souris, j'enfile mon aiguille avec attention. À peine l'opération terminée, il commence. « Je vous la dirai tout de même. » car elle peut vous servir d'exemple. Jack Nichols, je l'ai vu débarquer au camp de Caribou. Il me plaisait, ce garçon à lunettes. Il était timide comme une demoiselle et doux comme un mouton. Le voyant, je m'étais dit « En voilà un qui ne fera pas long feu ici, si personne ne le garde. » J'avais la maladie à cette époque d'être philanthrope, une maladie qui m'a passé heureusement. J'adopte mon garçon, je le prends sous mon aile, ce qui est une façon de parler, et le présente aux camarades. Je le conduis moi-même devant l'ingénieur du gouvernement et je lui fais acheter une bonne place, vous pouvez m'en croire. Le malheureux ne savait rien de mais il avait de la bonne volonté. Je lui appris tout d'abord à reconnaître un terrain aurifère. Ça n'était pas facile. Il se perdait dans mes explications. Dieu m'a doué d'une belle patience. Je souris à nouveau. L'homme patient se fâche. Tout doux, ami Grégory, j'écoute votre cours d'histoire naturelle. Vous en avez bien besoin, vous n'êtes qu'un apprenti. Je ne sourcille pas. Grégory s'étonne et répète. J'ai dit que vous n'étiez qu'un apprenti. Avec un flegme tout britannique, je réponds. Je suis... Oui, Jack ne savait pas discerner un filon de quartz. Je lui enseignais cette chose. Je lui montrais le filon, coupant les roches métamorphiques, ils sont, comme vous le savez, ou plutôt, comme vous ne le savez pas, le plus souvent des schistes argileux. je poursuis du ton d'un écolier récitant sa leçon. Des schistes argileux, talqueux, chloriteux, de couleur verdâtre ou grisâtre. Parfois aussi, on le rencontre dans des roches porphyriques, des gneiss, rarement des granites. Je prends la respiration. Grégory m'arrête du geste, cligne de l'œil et dit « All right ». Puis, un peu présomptueusement, il ajoute « J'ai fait de vous un bon élève ». Jack ne pouvait concevoir que, dans ce conglomérat quartzeux qui lui sert de gang, il pût y avoir de l'or. De l'or. Le soleil de nos vieilles barbes d'alchimistes. De l'or. La possibilité de satisfaire son désir. De l'or. Le prestige, la puissance de... Quelle fâcheuse bête que les hommes! Celui dont je parle véritablement découvrait le monde. Il avait des innocences d'enfant. Il fallait voir sa joie lorsqu'au fond de la panne où il lavait les sables, il vit pour la première fois des petits grains luisants. Il fut tellement satisfait qu'il pleura. Il resta des heures à contempler sa paye, les yeux fixes, les mains trembleuses. On aurait dit qu'il voyait quelque chose comme dans un miroir. Je lui ai aidé à construire son premier Swiss box, son premier canal incliné, long d'une centaine de pieds. Je lui expliquais pourquoi il fallait garnir le fond de saillies en bois et de cavités, et pourquoi, dans les cavités, on mettait du mercure. Il ignorait, le cher garçon, que l'or a la propriété de s'unir au mercure, et qu'ainsi, il est plus facile de le débarrasser du sable granulaire. Du courage, il en avait, malgré son air chétif, et jetait vaillamment dans le haut de la boîte la matière. Il maniait la pelle avec ardeur. Parfois, il s'arrêtait. Je surprenais alors la même fixité dans ses yeux. Il semblait toujours regarder plus loin dans la vie. Il soupirait, crachait dans ses mains et reprenait l'outil. Il avait une force de résistance étonnante. Il lavait parfois 18 tonnes de sable en une journée. L'eau qui coulait dans le sluice box semblait soutenir son courage. Parfois, il s'arrêtait et s'amusait à plonger sa main dans l'eau qui coulait, sans arrêt, entre ses doigts, rapide et insaisissable. J'avais dit, avant 3 mois, en voilà un qui aura replié bagage et qui prendra le chemin de Dawson sans espoir de retour. Les mois passèrent. L'homme tint. Je partis. Après une longue tournée, je le retrouvais, toujours ardent à la besogne, œuvrant comme un mercenaire. Avec cela, sérieux comme un ministre, jamais au cabaret, jamais une bonne goulée de whisky qui assomme, jamais une carte entre les doigts. Il avait pris goût au métier. La joie qu'il avait en lavant sa paye, il la retrouvait en regardant ses appareils d'amalgamation qui tournaient en cadence. Il surveillait avec amour son rocker, suspendu comme un berceau d'enfant, recouvert d'une toile grillagée avec au fond un tapis de toile grossière. Le sable aurifère, déposé sur la grille, sous la double influence de la rotation et de l'eau, cédait ses parties les moins grossières, qui se tamisait peu à peu pour ne laisser, l'or étant 18 fois plus lourd que l'eau, que les pépites sur la toile. Avec quelle ivresse il recueillait sa paye, qu'il serrait ensuite dans des petits sacs de cuir. Un jour, je l'ai surpris, écoutant comme une musique divine l'effroyable tumulte du moulin à broyer. Les concasseurs à mâchoire mangeaient le quartz comme des bêtes goulues. Le minerai disparaissait comme devaient autrefois disparaître les proies offertes à Baal ou à Moloch. Les distributeurs amenaient la matière, les cinq pylons fonctionnaient alternativement, soulevés par une lame en fonte dont l'arbre était supporté par un bâti en bois. Les pylons retombaient en tournant sur eux-mêmes, broyant le minerai. Je jure que ce bruit d'enfer était doux à l'âme de cet homme. La convoitise la plus basse se lisait ouvertement sur son visage. Cet homme frêle, myope et doux avait une face de démon lorsqu'il raclait, avec des frottoirs en caoutchouc, la surface des lames de cuivre qui avaient retenu l'or. L'or, l'or, l'or! C'était la seule chanson que lui chantait la machine à fabriquer les dollars. Grégory prend un temps, puis il émet. Jack Nichols me répugne. C'est un avare sordide. Et pour prouver son dégoût, par-dessus ma tête, le postier crache dans le feu. C'est là toute votre histoire? Grégory me regarde interloqué. Eh bien, il me semble au psychologue, au contempteur des humains, au ceci, au cela, il me semble que vous êtes une stupide bête. Vous dites? Je dis qu'avec toute votre philosophie, vous n'êtes qu'un imbécile. Laissez donc votre jambe tranquille, vous remuez comme un diable, et toute la nuit vous geindrez telle une femmelette. Jamais je n'ai rudoyé aussi brutalement mon ami. Il en reste médusé et se contente d'interjecter, lorsqu'il peut placer un mot, « Ah, bien !»« Ah, bien !»« Ah, bien !» J'ai dit que vous étiez un mauvais psychologue et je le prouve. Et votre histoire, c'est moi qui la terminerai. Jack Nichols, je l'ai connu. Nous avons été voisins, placés contre placés sur la Tanana. Et si cela peut vous être agréable, féroce postier, je lui ai fermé les yeux à ce garçon. Et s'il y a une justice quelque part, dans un paradis, Jack Nichols a sa place auprès de ceux qui ont souffert le supplice de la vie. Il a eu une agonie atroce, un accident banal. Un bloc lui avait écrasé les deux jambes. Et cette agonie n'était rien à côté de celle qu'il a subie des mois et des mois sous le cercle polaire. La fièvre le tenait. Son esprit battait la campagne. Et j'ai su la vie d'abnégation et de courage de cet être qui était né pour une vie paisible, dans la quiétude d'un cabinet de travail, parmi l'ombre amicale des livres, qui sont chers, et des bibelots rares qu'on a su assembler avec un soin jaloux. Mais une femme passe, qui bouleverse tout. Sa jupe en coup de vent renverse les plus beaux projets. La vie est mesquine, quotidienne. Les gazettes rapportent les succès mirifiques des coureurs d'aventure. L'or, donneur de fortune, est là. Il n'y a que se donner la peine de le prendre. Mais pour le prendre, faut-il encore l'aller chercher? La jolie poupée à cervelle étroite veut être aussi belle, aussi attifée que ses amis. Quoi? Elle va traîner sa misérable existence en attendant quoi? Dans 20 ans, un succès problématique? Les querelles éclatent qui gâchent le bel amour. Vous n'êtes qu'une poule peureuse. Vous n'êtes qu'un loir paresseux. Vous avez un cœur de lièvre. Enfin, un soir, l'ultimatum. La poupée va partir essayer sa grâce. Perdu pour perdu, ne vaut-il pas mieux lui montrer qu'on est un homme? Au matin, sans plus raisonner, il part, lisant dans les yeux de porcelaine un peu d'amour et beaucoup de joie. Et Jack Nichols débarque. Vous le rencontrez, vous l'aidez. Il m'a souvent dit combien il vous était reconnaissant et combien il souffrait de votre éloignement. » L'apprenti chercheur d'or fixait dans la vie, disiez-vous. Par Dieu, oui. Lorsque vous le voyez penché sur la panne, ce ne sont pas les pépites qu'il contemple, mais l'image de la poupée chère qui apparaît souriante et les paillettes d'or animent un regard lointain. Il reste accoudé sur sa pelle, les nerfs tordus par la fatigue. Il est là à tomber. Là-bas, par-delà les collines et les milles de neige, dans la grande cité, il y a une poupée fragile qui attend le bonheur. Ce bonheur, lui seul, peut le donner à force de labeur et de peine. Au plat, on crache dans ses mains et l'on remet en marche la machine à fabriquer les dollars. Ce ne sont pas vos concasseurs aveugles, vos appareils anonymes qui, à force d'ingéniosité, arrachent à la terre l'or, Dieu souverain. La machine à fabriquer les dollars, c'est lui, l'être chétif, qui, sous un climat effroyable, travaille, travaille, pour que, là-bas, la poupée soit rieuse et que des fanfreluches neuves lui servent à mettre en valeur sa beauté. Et le sacrifice est vain. L'or qu'on arrache à la terre est plus pénible à trouver que l'or qui roule dans la grande ville. Vous n'avez pas vu le visage de votre avare lorsque vous êtes passé 3 fois au camp et que pas une fois, dans votre sac de cuir, vous n'avez eu pour lui la lettre coutumière, l'enveloppe bleue où se lisait en grandes lettres endiablées le nom de Jack Nichols. Fini les lettres, il n'en recevait plus. Mais l'espérance illuminait son cœur d'amant. Après un désespoir farouche, il se reprenait. La machine à fabriquer les dollars se remettait à œuvrer d'un mouvement continu, avec cette obstination, cet entêtement qui est la force des faibles. Il est mort, tandis que l'aurore boréale enchantait la nuit polaire. Il est mort doucement, les yeux grands ouverts sur son rêve, avec un nom de femme sur les lèvres. Grégory dit simplement « Vous avez raison, ami. Décidément, je suis une stupide bête. » Chapitre 15. Une fameuse pêche. La journée finie, on vient au saloon, où dans le tumulte des cris, la fumée des pipes, le son criard des phonographes et la plainte des accordéons, on laisse aller sa pensée vers des choses lointaines. On boit pour soutenir son corps brisé. On boit pour oublier les tristesses anciennes. On boit surtout pour boire. Les deux coudes sur le comptoir, une paille entre les lèvres, je bois. Une voix m'interpelle. « Eh bien, cher garçon, votre pêche ?»«
Ma pêche ? Dites ma chasse. »«
Votre chasse ? Je suis véritablement étonné. Ne vous ai-je pas vu partir flanqué de tout un attirail ? Vous alliez, m'aviez-vous assuré, pêcher la truite dans les torrents des Roquises ?»«
Pêcher la truite, certainement. » »«
Et nous avons ramené le corps d'un magnifique grizzly. »
Un grizzly ?
Oui, une superbe bête, 2,40 m pour vous donner des précisions.
C'est une drôle d'histoire.
Waiter, 2 whisky. La chose est toute simple. Voici. Nous étions partis, Louise Gould et moi, pour pêcher la truite, la belle truite saumonée. Nous avions amorcé nos lignes lorsqu'un trappeur est descendu courant. « J'ai relevé, dit-il, les traces d'un grizzly dans la montagne, à 2 000 d'ici. Si vous voulez le tuer, je ne m'en charge pas seul. »
À
avec nos cannes à pêche. Ce serait drôle de tuer un grizzly, répond froidement Louise Gould.
Qu'à cela ne tienne, j'ai deux Winchester à vous offrir.
Mon camarade se tourne vers moi.
Cela vous plairait, dire, d'être venu pour la pêche et de chasser l'ours?
All right.
Bon.
Méthodique, Louise Gould replie les engins et, s'adressant au trappeur, déclare « On vous suit !» Par une piste en lacet, nous escaladons la montagne. Tout étonnés de nous retrouver, après 1,5 milles de marche, devant l'endroit que nous avions quitté, mais à 300 pieds plus haut. La hutte, une hutte de rondins de sapin, faite selon les bons principes, les fissures bouchées avec de la terre glaise. Les Winchester sont en bon état. Louise Gould les examine avec attention. L'examen est satisfaisant car il émet simplement « en route ». Nous suivons un chemin étroit bordé de pins gigantesques. Mais je n'ai pas le temps de m'émouvoir à l'aspect des plus vieilles choses vivantes de la terre, comme disent les Yankees. Notre guide nous montre déjà des traces indiscutables. Pour être vrai, je dois avouer que je trouvais le sentier pareil aux autres sentiers. Ce n'est pas évidemment l'opinion de Lewis Gould, qui hoche la tête et prononce « C'est une importante bête ». Je ne devais pas tarder à savoir combien importante elle était. Les arbres cessaient. Les rocs amoncelés faisaient une gorge peu large. En bas, on entendait le mugissement du torrent, étranglé dans la passe trop étroite. La gorge passée, la végétation reprenait, et à 50 pas devant nous, nous vîmes un des plus beaux ours que jamais les Rocky Mountains abritèrent. Il fut certes plus surpris que nous, mais il continua d'avancer en balançant sa tête énorme, à droite et à gauche, avec une régularité de métronome.
Vous le tirez, cher ?
L'invitation m'est adressée. J'ajuste, je fais feu et je rate la bête, qui, cependant, souvenez-vous-en, était d'importance. Louise Gould eut un sourire de pitié. Il lâcha deux coups et la bête croula sans un cri. Elle ouvrit seulement ses griffes en éventail qu'elle replia presque aussitôt, arrachant d'une seule étreinte un sapin de 3 ans. Vous pourrez voir chez moi sa peau qui est fort belle. Les poils sont longs, pas abîmés du tout. La bête était adulte. C'est en effet une fameuse pêche, apprécie mon compagnon en jetant d'un trait dans le fond de son gosier le contenu de son verre de whisky. Chapitre 16. Une belle chasse. Ce soir, c'est moi qui parle. Grégory est d'humeur bourrue. Et pour cause, le tabac manque. Il tète sa pipe vide pour tromper sa fringale et se créer une illusion. Je fais. Vous connaissez Seattle ? Le postier lève les épaules.
Évidemment.
Je poursuis plus pour moi-même que pour lui, pour bercer mon ennui. Je me souviens à voix haute. L'arrière-boutique d'un bar à Seattle, dans l'État de Washington, où malgré les prohibitions, on boit toute la gamme des alcools, depuis le gin d'Écosse jusqu'à la grappa d'Italie, en passant par le cognac de France. La salle est pleine de joyeux garçons, marins arrivant des mers du Pacifique, caboteurs venus d'Europe et remontant jusqu'à Vancouver, après avoir suivi la côte. Passé le détroit du Magellan. On parle toutes les langues, ou plutôt l'argot de toutes les langues. Le slang domine. Depuis les appellations gutturales des Chiliens, au teint olivâtre, jusqu'aux aisément des Chinois aux yeux bridés, aux visages ridés comme des pattes de poule. Les Malais mâchent du bétel, les Yankees de la gomme. Deux marins, basques et marseillais, fument la cigarette. Le premier, silencieux et grave, le second, par bouffées saccadées et hâtives. Il y a des matelots de la marine fédérale, pantalons à pattes d'éléphant et bérets en galette. Tous ont le cou libre, nerveux, musclé, avec une ligne de peau plus mate lorsque le cou se soulève. Des mineurs descendus du Klondike jouent au faro et, selon la coutume, pèsent leur mise, de la poudre d'or, dans des balances minuscules. Harry Flink, le garçon britannique en veste blanche, impeccable, verse à boire d'un mouvement brusque. Un jeune garçon de 15 ans, un Italien aux yeux de femme, manie avec force l'appareil à fabriquer les cocktails. Le mouvement est continu. Des garçons entrent, boivent, payent et sortent. D'autres arrivent qui font de même. Ici, on ne vient pas au bar pour causer. On vient uniquement pour boire. Toute chose doit servir à ce pourquoi elle est destinée. Un bar, c'est pour boire, donc on boit. Un gars de l'Est fredonne. All the nice girls love the sailors. Commande un whisky, jette de nickels sur le bois du comptoir. La machine enregistreuse tinte, le tiroir n'est pas refermé qu'il est déjà dehors. Son refrain se perd dans la rue. Hello, boy. Une rude tape s'abat sur mon épaule. C'est mon ami, Louise Gould. J'ai reconnu sa manière. Are you? Mâchonne-t-il entre ses dents, et sans attendre ma réponse, il ajoute, moi, je suis véritablement confortable. En effet, j'ai rarement vu un garçon tenant mieux le whisky. Pour prouver sa confortabilité, il jette au garçon. Un whisky pour moi. Et avec une moue de pitié, il poursuit. Un verre de bière pour monsieur. For your love. The same to you. Il élève le verre à la hauteur de son œil et d'un trait vide l'alcool. Il pousse un ah, satisfait, et l'écoute sur le comptoir, il me dit. Êtes-vous revenu de votre chasse au grizzly? Ma foi, oui. Voulez-vous être en chasse cette nuit? Cette nuit? Probable. Si vous dites oui, nous sortons et nous embarquons. Nous embarquons? On va donc chasser le phoque? Non, répond Louise Gould flegmatique. Non, pas le phoque, le chinois. Hein? Vous dites? Je dis bien le chinois. Une bête que vous appelez ainsi? Non, non, je m'exprime correctement. Pas une bête chinoise, une bête de chinois. C'est la même chose, achève-t-il dans un gros rire. Son rire me gêne et m'intrigue à la fois. J'ai tellement vu de choses bizarres dans cette bizarre Amérique. Je ne sais si je dois prendre au sérieux la proposition de mon camarade. Mais, imperturbable, il conclut. C'est une chose vraiment excitante. Du moment que c'est exciting, c'est le fin du fin pour un Américain. Vous venez? J'hésite. Mais Louise Gould ajoute. « Mistress Flossie Ursinchon y sera. »« Oh, alors, du moment que Mistress Ursinchon en est... »« All right, j'accepte. »« Et là, camarade,
Pas si vite. Comme vous êtes bien français. Vous ne voulez pas et puis quand vous voulez tout de suite.
Garçon, un whisky pour moi.
J'ajoute ironique. Et un verre de bière pour moi.
Non, rectifie Louise Gould. Un whisky pour vous aussi. La nuit sera rude.
Whisky très bon contre la brume maritime.
Les whiskies absorbés, nous sortons.
La nuit est claire, les hauts buildings silencieux silhouettent leurs masses énormes.
Les lampadaires à huit globes jettent des nappes lumineuses dans la rue où seuls des groupes de matelots s'attardent. Le totem pole se dresse hiératique au milieu du Pioneer Square. Les pontons, le wharf, les trois canots automobiles qui, sur leur coque, portent en lettres capitales brunes « Police » sont allongés comme des bêtes endormies.
Mistress Florrie Hutchinson?
Me voici, jette une voix claire.
Well.
Le chef de police, qui est le manager de l'expédition, après les salutations d'usage, nous prie d'embarquer.
Mon ami, Louise Gould, monte dans l'embarcation du sous-chef.
Mistress Hutchinson et moi avec le chef.
Diable, on n'est pas trop confortable, pour employer l'expression de Louise. Ces sacrés canaux automobiles ont une lunette peu large. Enfin, on se case. Mistress Flossie, tout près de moi.
Elle est aussi très confortable, Mistress Flossie. Et j'ai le côté droit un peu trop serré contre le bastingage, mais auprès d'une jolie femme.
Le chef, un grand homme glabre, lève le bras gauche et là-bas. C'est le signal. Les bêtes endormies se réveillent. Les moteurs ronronnent. Nous sommes en route.
Je vous souhaite bonne chance, lance la voix de Louise Gould, dont le canot prend la tête.
Merci, répond Mistress Flossie, qui s'emmitoufle dans une vaste couverture faite de peaux de renard assemblées. Nous passons à radeau auprès des steamers gigantesques. La lune déchire un voile de nuages et risque un œil. Son reflet danse sur les vagues.
Damnée lune, jure le chief of police.
Moi, je la trouve divine, cette lune blonde, qui met en valeur la nuque plus blonde de ma voisine. Assis en retrait, je regarde ce profil de femme. Cette nuque grasse, où se jouent des frisons légers. Elle a dû comprendre que je la regardais, car elle se retourne brusquement et me sourit. Ce sourire, échancrant largement la bouche, me montre une rangée de dents solides. Je lui trouve un sourire un peu fauve à la jolie Mistress Flossie Hutchinson. Nous avons franchi l'avant-port. L'œil du phare nous poursuit. Nous voici remontant le large estuaire que forme le détroit de Juan de Fuca. Laissant à notre droite l'île de Vancouver, nous nous voyons en vue des feux de Victoria, mais en évitant de pénétrer dans les eaux anglaises. La Colombie-Britannique est là. N'oublions pas que nous sommes, nous, pour l'instant, police américaine. Nous sommes, à ce qu'il paraît, en chasse. Cela doit être vrai, car je lis sur le visage du chef de la police toutes les déceptions du chasseur qu'étreint l'angoisse de rentrer bredouille. Les dames se succèdent dans sa bouche.
Dame, c'est le sacré gibier qui ne veut pas se laisser tuer, ou tout au moins se laisser prendre.
Une interrogation de Mistress Flossie fait éclater la déconvenue de notre manager.
Vous ne trouvez rien, cher?
Mon Dieu, que c'est peu intéressant!
Il répond avec une rudesse toute américaine.
Eh, madame, croyez-vous que ce soit une sinécure? Mes renseignements sont exacts, pourtant. Mais allez donc vous rendre compte avec un ciel pareil, et ce moteur qui fait un bruit de tous les diables. Je suis sûre qu'on nous entend à 10 000 d'ici. Nous tournons en rond depuis 2 grandes heures. Les autres canaux sont invisibles, perdus, là-bas, dans l'immensité. Moins abrités par la côte, nous sommes pris de biais par un vent nord-nord-est qui, nous poussant vers la mer, accélère notre vitesse. « Il ne fait pas chaud », murmure avec une moue notre jolie compagne qui s'emmaillote complètement dans ses peaux de renard. Soudain, 3 coups de sifflet brefs, aigus, stridents, déchirent l'air. Le signal. L'animal est en vue. Un coup plus prolongé nous avertit que nous devons surveiller sur notre gauche. Un commandement du chef, le canot, docile, vire et prend de la vitesse. Mistress Flossie Hutchinson pousse un « ah » curieux. Elle rejette les couvertures, son cou se tend. « plus vite !» ordonne le chief of police, debout, les yeux guetteurs. « Ah, là-bas, je vois !» J'écarquille les yeux en vain. 2 coups brefs, 1 coup espacé. Changer de direction. Couper la route. 2 ordres exécutés avec une ponctualité militaire. Là-bas, là-bas. Le doigt tendu, le chef, me montre un point que j'aperçois enfin. C'est une barque qui semble grandir en sortant des flots. Un ordre encore. Comment, nous abandonnons la chasse, regrette Mistress Hutchinson? Non, nous coupons la route à ces damnés animaux avant qu'ils soient dans les eaux britanniques. Les coups de sifflet se succèdent qui parlent dans la nuit. Un cri plus long. Puis le sifflet pousse un hurlement continu. C'est le cri de victoire. La route est coupée. Les 3 canaux forment un arc de cercle. La proie ne peut échapper. On ralentit l'allure. Les canaux dansent sur les lames. La barque, une jonque chinoise à voile rectangulaire, est là, à 1/2 mille de nous. Quelques ronflements du moteur et nous serons sur elle. La lune a crevé sa ceinture de nuages. Goguenarde et amusée, elle contemple ce tableau. La jonque louvoie. Elle ruse encore, essayant de passer au travers des mailles du filet, qui se resserre de plus en plus. On voit distinctement les matelots courant sur le pont. Tout à coup, le chief of police pousse un juron épouvantable. Un commandement a retenti sur la barque. Les hommes se groupent, soulèvent une caisse et la jettent par-dessus bord. Ils procèdent ainsi 4 fois. Je ne comprends pas. Le chef jure comme un démon. Je regarde ma voisine. Ses yeux sont luisants comme des lames. Une lueur les allume. La bouche est tirée, les narines sont contractées. Il y a de la louve dans cette physionomie. Elle sent que je l'observe. La lady reparaît avec son sourire immuable. Elle dit « Ah, very exciting !» C'est nous qui donnons les ordres cette fois. Un coup de sifflet bref, un coup plus long, les 3 canaux virent. Nous tournons le dos à la jonque qui bientôt diminue et se perd dans l'océan. Je ne comprends pas. Alors, Mistress Flossie Hutchinson m'explique, complaisante, « La chasse est finie. »« La chasse ?»« Je vais vous dire, homme de peu d'entendement. »« Les lois américaines sont sévères qui prohibent l'entrée des Chinois sur le territoire de l'Union. »« Aussi, ces maudites bêtes usent-elles de ruses pour chasser sur la frontière ?» La plus facile, parce que la plus difficile à surveiller, est la mer. C'est pourquoi, par la mer, la contrebande est plus importante. Mais alors?
Alors, les Chinois s'enferment dans des caisses et les matelots de leur pays les déposent sur le sable, tout simplement.
Tout simplement?
À moins, continue la jolie Madame Hutchinson avec un sourire ambigu, à moins qu'on ne leur donne la chasse comme ce soir.
Alors, les caisses par-dessus bord?
C'est pour ne pas être puni. La loi est dure, vous ai-je dit.
Mais dans les caisses?
Dans chaque caisse, il y avait un Chinois. Cela n'a aucune importance.
Véritablement, c'était une belle chasse.